Je dirais d'abord que l'énergie, bon, vous savez, l'énergie, c'est indispensable à la vie des individus et à la vie des sociétés. C'est fait pour toutes ces applications. Et donc, ça répond à des besoins fondamentaux. Quand on s'intéresse à la question des énergies sur le plan mondial, on est frappé, moi personnellement, frappé d'abord par une chose. C'est les extraordinaires inégalités de consommation d'énergie selon les pays et les régions du monde. Hein. Quand vous avez par exemple un Inde, un Indien qui en moyenne consomme alors 0,2 tonnes d'équivalent pétrole, c'est la mesure, c'est l'unité avec laquelle on quantifie l'énergie produite et l'énergie consommée. Bien, alors, vous voyez 0,2 pour lui. Nous, France, c'est 4 tonnes d'équivalent pétrole. Aux États-Unis, c'est 8 tonnes. Vous voyez, il y a des disparités extrêmement importantes. Ces disparités, ces inégalités dans la consommation d'énergie, elles ont un impact direct. La faible consommation d'énergie a un impact direct sur la vie des individus, sur leur espérance de vie. Et vous constatez que dans les pays où la consommation moyenne d'énergie est faible, l'espérance de vie est faible aussi. Bon, là, le tableau est un petit peu compliqué. Ça vous montre que quand on consomme peu d'énergie sur la gauche du schéma, eh bien, les espérances de vie, c'est 35 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis, à mesure qu'on en consomme plus, on arrive vers la Suède, le Canada, les États-Unis, la France, etc., vous voyez que les espérances de vie sont de 70, 80 ans. Ça veut dire que la consommation d'énergie, c'est le reflet, en quelque sorte, de la situation d'un pays et de sa population. Alors, quelques données maintenant pour situer les choses sur le plan mondial. Hein. Aujourd'hui, on est à peu près 6,5 milliards d'individus sur la planète. On peut dire qu'il y en a 4,5 milliards qui vivent dans des conditions de vie pas très confortables et qui ont des consommations d'énergie très faibles. Sachez que à peu près 1,5 milliard d'individus n'ont même pas accès aujourd'hui à l'électricité. Vous voyez, sur 6,5 milliards, c'est quand même beaucoup. Hein. On sera en 2050 9 milliards. On va donc, et ces chiffres, si vous voulez, portent en eux-mêmes la conclusion prospective qu'on peut tirer, c'est qu'il va falloir, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, il va falloir produire de plus en plus d'énergie. Même si nous, quand je dis nous, c'est nous les pays riches, hein, pays industrialisés, c'est-à-dire à peu près 1 milliard d'individus. Même si nous, pays riches, qui gaspillons l'énergie, il faut bien le dire, hein, notre manière d'utiliser l'énergie est souvent du gaspillage. Même si nous faisons des économies d'énergie dans de très grandes proportions, et tout le monde est d'accord pour le faire, pour essayer de le faire, de toute façon, même si on réussit, mettons, à diviser par deux la consommation d'énergie, vous n'allez pas demander à un Indien ou un Chinois de faire des économies sur une énergie qu'il ne consomme même pas. Hein. Donc, ça veut dire que si nous faisons nous des économies, de toute façon, la consommation énergétique dans les prochaines décennies va monter. Et dans des proportions relativement importantes, selon les scénarios, monter de 50%, une fois et demie, deux fois, ça, c'est, on peut toujours en discuter. Alors, on se heurte à deux problèmes là, et si vous comprenez ces deux problèmes, vous aurez compris la problématique énergétique et climatique au niveau mondial. J'ai essayé de résumer ces deux problèmes. Le premier problème, c'est que notre source principale d'énergie actuelle, c'est quoi ? C'est les combustibles fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz. C'est ça notre source d'énergie, c'est 85% de notre énergie. Eh bien, cette source-là, elle est en voie de raréfaction et d'épuisement annoncé à échéance de quelques dizaines d'années pour le gaz et pour le pétrole. Hein. Le charbon, ça peut durer un peu plus longtemps. Bon. L'autre problème, c'est que ces énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, quand on les utilise dans nos voitures, dans nos appareils de chauffage, pour produire l'électricité, etc., quand ils brûlent ces combustibles-là, ils déversent dans l'atmosphère du gaz carbonique, du CO2, qui est le principal gaz responsable de l'aggravation de l'effet de serre. Je ne vais pas aller trop loin dans l'explication de l'effet de serre, on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez, mais cet effet de serre provoque un réchauffement climatique qui peut, si on ne le maîtrise pas, avoir, d'après les climatologues, des conséquences dramatiques pour l'humanité dans le siècle qui vient. Donc, nécessité de faire attention aux quantités de combustibles fossiles qu'on utilise et qu'on balance et qui balance dans l'atmosphère des quantités énormes de CO2. Et du fait de l'épuisement de la raréfaction de ces ressources, nécessité de les utiliser avec parcimonie et de les économiser au maximum. Alors, vous voyez qu'on se trouve là devant un impératif contradictoire. Parce qu'il va falloir produire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus d'énergie, tout en restreignant de façon importante notre source principale d'énergie, les combustibles fossiles, hein, ce que j'appelle l'équation contradictoire. Encore plus d'énergie et freiner le recours à notre principale source de production. Donc vous voyez la contradiction. Et si vous avez bien saisi cette contradiction, bon, c'est tout le problème auquel l'humanité est confrontée maintenant. Alors, comment résoudre ce problème? Eh bien, la logique, c'est de dire qu'il faut développer d'autres sources d'énergie qui, elles, n'émettent pas de gaz carbonique. Et parmi ces énergies, ça je reviendrai après, parmi ces énergies, il y a les énergies renouvelables, éolien, solaire, géothermie, hydraulique, biomasse, c'est un peu plus discutable, et il y a l'énergie nucléaire. Donc, je dirais, pour en guise de, pas de conclusion, mais disons de remarque, après ce survol du problème énergétique et climatique au niveau mondial, qu'il y a au niveau mondial un consensus, enfin disons une opinion largement partagée chez les énergéticiens et les décideurs politiques. C'est de développer, c'est d'économiser l'énergie d'abord. Il faut l'économiser, hein, même si ça ne résout pas toute la question. Il faut développer les énergies renouvelables. Et développer l'énergie nucléaire, alors là, ça pose plus de problèmes. Il y a des réticences, etc. Mais il est vrai que si on prend le problème dans ça uniquement par l'aspect énergétique, matériel, physique, il faut aussi développer l'énergie nucléaire. Je mets aussi arrêter la déforestation parce que les forêts, elles absorbent le gaz carbonique et elles empêchent donc ce gaz d'aller dans l'atmosphère et faire autour de la Terre une espèce de barrière qui maintient la chaleur. Voilà, alors, ça, c'est brièvement résumé, mais je pense que c'est je vous ai dit les grands axes du problème, avec cette triple démarche. Maintenant, si vous voulez, quelques mots sur le nucléaire. Alors, vous étonnez peut-être en nucléaire de voir ce monsieur, c'est un philosophe grec. Moi, je lui rends hommage parce que c'est lui le premier à l'époque qui a. C'est lui qui a inventé le mot. Qui a inventé les atomes, disons. C'est lui qui, le premier, a eu l'intuition que la matière, elle était composée de petits grains, finalement, que, à partir d'une taille très petite qu'on ne pouvait plus couper, tellement leur taille était petite, qu'ils devenaient insécables, incoupables. Atomos, en grec, ça veut dire insécable. Lui, il pensait que la matière, elle était composée de ces atomes, dont les caractéristiques, dont les mouvements déterminaient les caractéristiques des gens et des êtres vivants et des choses sur la Terre. Il a eu quand même cette intuition assez géniale. À son époque, je vous le rappelle, on expliquait l'univers en disant que l'univers c'est quatre choses, c'est l'air, l'eau, la terre et le feu. Bon, ok, mais lui il a dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, il faut aller encore plus loin, et il a inventé cette notion des atomes. Pendant une vingtaine de siècles, les chercheurs, les scientifiques, n'ont pas creusé plus loin cette notion des atomes. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, et surtout du 19e, que les chercheurs ont creusé la question et ont mis à jour ce que c'était que les atomes avec nettement plus de détails et de précisions. Ces découvertes, bon, je ne pourrais pas lire ce qu'il y a, mais sachez simplement que les savants français ont apporté une contribution déterminante. Tout a commencé finalement avec la découverte de Becquerel, Henri Becquerel, en 1896, il a découvert l'existence d'un phénomène naturel qu'on appelle la radioactivité, et à partir de là, la confirmation de l'existence des atomes a été posée, et tous les savants, là vous voyez Pierre et Marie Curie, ensuite Rutherford, Niels Bohr, Irène et Frédéric Joliot-Curie, ils ont, c'est tous ces savants, qui, en une quarantaine d'années, ont découvert, ont prouvé l'existence des atomes et leurs différentes caractéristiques et leur capacité, si vous voulez, le fait qu'ils recèlent à l'intérieur d'eux-mêmes ces petits grains de matière, une énergie absolument colossale. Alors, première application de l'atome, c'était la bombe atomique. Lancé sur Hiroshima et Nagasaki quelques jours après. Hein, vous savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Deuxième guerre mondiale, les Américains, pour mettre fin à ce qu'ils pensaient devoir être une guerre longue contre le Japon qui ferait des milliers de victimes, ils ont décidé de lancer sur Hiroshima, 8 jours après sur Nagasaki, cette bombe atomique. C'est comme ça que l'énergie nucléaire a fait son entrée sur la scène mondiale et évidemment ça n'a pas ajouté à son image positive. Hein. C'est comme ça qu'elle est apparue pour la première fois de manière négative. Ensuite, quelques années après, en décembre 1951, alors là c'est une photo qui est rare et regardez-la bien, vous voyez les quatre ampoules, c'est la première électricité produite par l'énergie nucléaire, c'est-à-dire par là. Enfin, je vous expliquerai en deux mots. Voilà, c'était aux États-Unis, dans l'Idaho, et c'est là qu'on a compris. On a compris qu'on pouvait pas seulement se servir des atomes en utilisant leur capacité explosive, comme dans les bombes, mais qu'on pouvait utiliser l'énergie contenue dans les atomes de manière progressive, contrôlée, maîtrisée. Alors, les atomes, je ne sais pas si vous, dans vos cours de physique, oui, je pense que vous avez, on vous a expliqué ce que c'était que les atomes, je ne vais pas revenir dessus, simplement pour vous dire que un atome, c'est un noyau composé de neutrons et de protons. Et autour de ce noyau, c'est des électrons qui tournent. Il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons qui tournent autour. Vous avez différents types d'atomes selon le nombre des protons et neutrons, on dit les nucléons, hein, ceux qui sont dans le noyau, selon le nombre de nucléons qu'il y a dans le noyau et d'électrons qui tournent autour. Ces différents types d'atomes, on en compte à peu près dans l'univers 92. Chacun de ces types, ou presque tous ces types, ayant des cousins plus ou moins, enfin qui ont les mêmes caractéristiques, mais qui en diffèrent très légèrement, simplement. On appelle ça des isotopes. Et au total, si on compte aussi les cousins, ça fait à peu près 350 types d'atomes qui forment toutes les matières de l'univers, toutes les matières connues, hein, parce qu'il y a la matière de l'univers qu'on ne connaît pas. Toutes les matières connues, vous, la table, le micro, le lycée de Jean-Claude Miramas, tout ça, c'est formé d'atomes. Nous-mêmes sommes formés d'atomes, l'eau, l'air, etc. Et alors, je voudrais vous dire un mot, donc, du mécanisme qui permet la libération de l'énergie qu'il y a dans ces atomes. Pourquoi y a-t-il de l'énergie, comment ça se fait? Si on pose vraiment la question pourquoi, personne ne peut y répondre, sauf peut-être des philosophes, des mystiques qui ont leur conviction. Mais sachez que il y a dans la nature un atome qui a une propriété extraordinaire, c'est l'atome d'uranium. L'atome d'uranium, c'est un atome très lourd. Il a, plus exactement, l'atome d'uranium 235, c'est une certaine famille de l'uranium. Il a beaucoup de nucléons dans son noyau, et quand son noyau est percuté par un neutron, le numéro 1 là, il se divise en deux morceaux, ce noyau d'atome d'uranium. Se divise en deux morceaux et il libère deux ou trois neutrons. Vous voyez ce qui est marqué en numéro 4 là. Il libère deux ou trois neutrons. Si vous voulez des précisions, vous pouvez m'interrompre. Hein. Et ces deux ou trois neutrons. Alors, ce phénomène-là, de l'atome qui se casse en deux, qui libère des neutrons, ça s'appelle la fission de l'atome. La fission. Et ça dégage de l'énergie, notamment sous forme de chaleur. Parce que les deux atomes, les deux morceaux dans lesquels l'atome va se scinder, ils vont partir très vite et se frotter à la matière environnante, frottement dégageant de la chaleur. Donc ça va dégager de l'énergie cinétique, rapide et de la chaleur. Alors, à l'échelle d'un seul atome, l'énergie libérée proportionnellement est colossale, mais elle n'est pas très importante dans l'absolu. Mais ce qui se passe, c'est que les deux ou trois neutrons libérés vont aller à leur tour impacter d'autres noyaux de cet uranium 235 qui vont à leur tour se briser et balancer encore deux ou trois neutrons qui vont, et ainsi de suite, dans ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Réaction en chaîne qui, pour les bombes atomiques, est donc une réaction explosive parce que on agence les structures de l'engin et on traite l'uranium de telle sorte que ce soit explosif. Et également, énergie que l'on peut maîtriser si l'uranium est traité d'une certaine façon et agencé d'une certaine façon. Voilà quel est le phénomène qui fait marcher nos centrales nucléaires. Parce que, finalement, on va utiliser la chaleur émise par ces fissions des atomes d'uranium et cette réaction en chaîne. Si vous avez un atome ou deux qui fissionnent, ça ne va pas vous donner beaucoup de chaleur, mais si vous en avez des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, ça va vous faire une chaleur fantastique. Donc, c'est cette chaleur qui est le moteur des centrales nucléaires. Il faut bien le voir. Parce que cette chaleur va chauffer de l'eau. Alors là, c'est un schéma peut-être un peu compliqué. Cette chaleur va chauffer de l'eau. C'est ici, dans le cœur du réacteur, qu'il y a l'uranium. L'eau, qui est présentée en rouge là, elle va chauffer énormément et elle va donner, elle va échanger ici avec le circuit en vert, elle va chauffer l'eau, une autre eau qu'il y a dans ce circuit en vert et en bleu. Et cette autre eau chauffée par l'eau primaire, elle va se transformer en vapeur et faire tourner une turbine qui produit l'électricité. Voilà comment marche une centrale nucléaire. En fait, c'est simplement une espèce de chaudière où on fait chauffer de l'eau, l'eau se transforme en vapeur, la vapeur fait tourner la turbine. Et c'est pareil que les centrales au gaz, au pétrole, au charbon. On fait chauffer de l'eau avec la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Il y a de la vapeur et la turbine tourne. Sauf que, avec un tout petit, avec un gramme d'uranium, fissile, un gramme de plutonium, c'est une autre matière produite par l'uranium, vous obtenez autant d'énergie qu'avec une tonne de pétrole. L'uranium, il y a toute une industrie autour pour aller le chercher dans les mines, pour le traiter, etc. Il reste dans le cœur du réacteur pendant à peu près 2-3 ans, où il produit son électricité. Ensuite, il devient moins performant, on le retire. Alors, regardez ici cette comparaison dans les puissances. Voilà nos principales sources d'énergie. Alors, pour obtenir 1 kWh d'électricité, plus exactement, avec 1 kg de bois, comme vous voyez, vous obtenez 2 kWh d'électricité. Ça vous donne son rendement énergétique, sa puissance énergétique. Avec 1 kg de charbon, vous faites 4 kWh. Fuel, gaz, que vous voyez qu'avec l'uranium, on change d'échelle. On change tout de suite. Avec 1 kg d'uranium, vous faites 50 000. Pardon, vous ne voyez pas beaucoup là. Il faut que je me baisse, que je devienne transparent. Remarquez, je suis au Haut Comité pour la transparence sur la sécurité nucléaire. Alors. Donc vous voyez un changement d'échelle totale. Et c'est ça qui explique, puisqu'on a découvert ça, cette capacité de cette fission et réaction en chaîne pendant la Deuxième Guerre mondiale, le lendemain. Et c'est ça qui explique que le nucléaire s'est beaucoup développé, parce que les gens se sont dit, avec de toutes petites quantités de cette matière qui est bien répandue sur l'ensemble du globe, l'uranium, on peut faire des quantités d'énergie extraordinaires plutôt que de se coltiner des milliers de tonnes de charbon. On se cultive quelques kilos d'uranium et avec on fait la même quantité d'électricité. Oui, alors là par exemple, ça vous donne un peu les échelles. Hein. Pour faire fonctionner pendant un an une centrale au charbon, vous allez devoir utiliser 2 300 000 tonnes de charbon pour produire l'électricité pendant un an. Le pétrole, c'est 1,3, et pour l'uranium, c'est 20 de tonnes. Ça vous donne une image des... Alors, l'énergie nucléaire au niveau mondial, où en est-on aujourd'hui? Voilà quelques chiffres. Il y a aujourd'hui 440 réacteurs nucléaires en fonctionnement dans le monde. Et vous voyez que la France est le deuxième, avec 58 réacteurs, c'est le deuxième pays après les États-Unis. Le Japon arrive en troisième avec 52 réacteurs. Le nucléaire, c'est à peu près 15% de l'électricité fabriquée au niveau mondial. Je vous fais grâce des puissances installées et des térawattheures. Il y a des réacteurs en projet. Il y a actuellement, c'est plus 57, c'est 63 réacteurs en construction au niveau mondial. Voilà les chiffres. Maintenant, on peut s'interroger, compte tenu de l'accident japonais, sur les deux lignes du bas, les 96 réacteurs en projet. Peut-être que ça va être reculé, qu'il va y avoir des moratoires, enfin, on ne sait pas trop. Personne n'en sait rien. Les réacteurs en construction, ils iront probablement jusqu'au bout. Enfin, on ne sait pas non plus. Hein. Mais voilà l'image du nucléaire au niveau mondial, pour l'instant. Alors, je voudrais maintenant essayer de vous dire les risques et les avantages du nucléaire, en insistant sur les risques, parce que c'est d'actualité. Hein. Je pense qu'on peut discuter de l'accident au Japon. Je passe rapidement sur les ressources en uranium, combien de temps on pourra y revenir. Il y en a pour à peu près 2,5 siècles au rythme actuel de consommation et beaucoup plus avec un autre type de réacteur, mais là je passe. Alors, je passe aussi sur les énergies renouvelables qui ont des atouts et des limites. Sur les avantages du nucléaire, je vous en dis un mot et je vais aller sur les risques surtout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les avantages? Alors, le premier avantage, je vous l'ai dit, c'est l'extraordinaire concentration de puissance. Ça permet beaucoup moins de transport, beaucoup moins de manipulation, beaucoup moins d'espace mobilisé au sol et un rendement formidable. Et ça peut produire en continu des quantités massives d'électricité. Quand je dis en continu, ça veut dire que contrairement aux énergies renouvelables solaires et éoliens, par exemple, qui fonctionnent par intermittence, là c'est en continu. Garantir une sécurité d'approvisionnement, oui, pour les gens qui ont du nucléaire, la ressource uranium est très facilement accessible, c'est pas très cher, même si les prix augmentent, et ça garantit une sécurité parce que les marchés internationaux du pétrole, du gaz, du charbon sont soumis à des aléas, peuvent être soumis à des embargos, à des chocs de prix, etc., auxquels le marché de l'uranium est beaucoup moins soumis. Alors, ne pas rejeter de gaz à effet de serre ou de produits polluants. En fait, le nucléaire ne rejette pas de CO2, il rejette des produits polluants, mais en très faible quantité, dans les centrales et dans les autres installations, comme les usines de retraitement, par exemple. Mais l'impact est très faible par rapport aux centrales à combustible fossile. Alors, je vais ménager des ressources fossiles pour les pays en voie de développement. C'est vrai que plus on produit avec le nucléaire et avec l'uranium, moins on va participer à l'épuisement des réserves de gaz, de pétrole et de charbon. Et ces réserves-là, ces énergies-là, ce sont les pays en voie de développement qui en ont énormément besoin, parce qu'eux, ils n'ont pas de nucléaire, enfin, pas pour l'instant. Donc, plus vous tapez dans les réserves d'uranium, plus vous faites du nucléaire, et plus ça soulage, ça apporte une détente sur les marchés des combustibles fossiles. Et garantie des prix stables sur le long terme, alors c'est vrai, pour faire beaucoup d'électricité, vous avez besoin de très peu d'uranium, même si l'uranium coûte très cher, et il va coûter probablement de plus en plus cher, eh bien, ça n'a rien à voir avec les prix du pétrole, du gaz ou du charbon. Je vous donnerai un exemple, si vous voulez. Notre approvisionnement en uranium chaque année pour faire tourner nos 58 réacteurs, c'est en gros entre 400 et 800 millions d'euros par an qu'on doit sortir pour avoir la matière première uranium. Si on prend du gaz, par exemple, au cours actuel, c'est, bon, disons, avec les fluctuations du dollar, etc., ça peut être entre 20 et 25 milliards d'euros. Vous voyez, il y a une énorme différence. Et donc, c'est un gros avantage sur le plan économique. Contrainte du nucléaire, je vais m'arrêter un instant sur certaines d'entre elles. Risque. Ouais, risque, comme le montre la centrale au Japon. Des déchets qu'il faut correctement isoler, mais ça, je dirais, c'est moins risqué, ça. Même si, je sais bien que dans l'opinion, les déchets ont une image épouvantable, on dit, oh là là, ça va être radioactif pendant des milliers d'années, qu'est-ce qui va se passer? Mais si vous discutez avec des ingénieurs, ils vous diront que le risque, c'est les centrales, c'est pas les déchets. Les déchets, on sait faire. Prolifération, ouais. Fort investissement initial, bon, ça c'est un problème économique. Si vous voulez acheter une centrale, un réacteur nucléaire, préparez-vous à sortir, enfin, les plus modernes, à peu près 3 milliards et demi, 4, 5 milliards d'euros. Pour une centrale à charbon, c'est moins, c'est 2 milliards, de la même puissance, hein, c'est 2 milliards, 2 milliards et demi. Et méfiance du public, alors là, c'est évident, le nucléaire a une mauvaise image dans le public, et je pense, et je ne suis pas le seul à penser, que un des freins, le frein principal probablement à son développement au niveau mondial, c'est ça, c'est la méfiance du public. Là, je vais passer sur, j'ai quelques slides qui montre dans quelle mesure le nucléaire peut permettre d'éviter les rejets de CO2 et donc peut permettre, est un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je vais passer là-dessus, sinon on va en avoir pour des heures. Je dirais simplement que pour produire 1 kWh d'électricité avec du charbon, ça vous balance 1 kg, 980 grammes, 1 kg de CO2 dans l'atmosphère. Avec le pétrole, c'est à peu près pareil, le gaz, c'est nettement moins, le nucléaire et les autres énergies, vous voyez, c'est pratiquement rien. Ça, c'est les différents pays. Là, je m'arrête simplement. Dans les différents pays, ça, c'est une étude qui montre les différents parcs électriques dans différents pays. Qu'est-ce qu'ils déversent comme CO2 en grammes par kilowattheure. Alors, vous voyez que la Suède déverse 43 grammes par kilowattheure, la 3091, et ensuite ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus fort. L'Allemagne et le Danemark étant les champions dans la pollution CO2. Et la France et la Suède étant les bons élèves de la classe à ce niveau-là, la Suède, ils ont un parc électrique composé pour moitié de nucléaire et d'hydraulique. Donc ils émettent pratiquement pas un gramme de CO2. Nous, on a nucléaire 80% de notre électricité, ou à peu près, hydraulique à peu près 10%. Donc on émet très peu de CO2, et les 10% restants, c'est du gaz, du fuel, ça en émet un petit peu. Et on commence à développer en France des énergies renouvelables qui n'émettent pas de CO2, éolien et solaire. Mais leur contribution au bilan électrique global est encore extrêmement faible. Elle doit être de 2% pour l'éolien et ajouté au solaire. Donc, le nucléaire contre l'effet de serre, il y a un ou deux chiffres à retenir tout de même. On balance aujourd'hui au niveau mondial à peu près, même un peu plus maintenant, 30 milliards de tonnes de CO2 par an. D'après les climatologues, il faudrait, pour maintenir le réchauffement climatique dans des limites à peu près acceptables, diviser par deux ces rejets, arriver vers 15 milliards de tonnes, ce serait pas mal. Enfin, bon. Aujourd'hui, le nucléaire, avec ses 15% d'électricité qui est produit au niveau mondial, c'est à peu près 2,5 milliards de tonnes de CO2 évitées par rapport à ce que serait le CO2 balancé si c'était des centrales à combustible fossile. Vous voyez. Et si on développe le nucléaire, il permettrait à peu près d'éviter entre 4, 5, 6 milliards, 6 milliards de tonnes si on double le parc nucléaire, mettons. Donc vous voyez, ce n'est pas toute la solution au réchauffement climatique et aux économies de CO2, mais c'est tout de même pas négligeable comme économie possible. Alors j'en viens au risque du nucléaire, et je voudrais m'attarder un peu là-dessus, parce que c'est un sujet d'actualité et qui préoccupe à juste titre les gens. Là, je vous ai mis pour un réacteur nucléaire, je vous ai parlé de la réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne, à l'intérieur du cœur d'un réacteur nucléaire, elle ne peut pas être explosive, pour la bonne raison que le type d'uranium qui est dans le cœur du réacteur n'est pas adapté, si vous voulez. Son isotope qui est fissile, qui subit la fission, il est en très faible proportion. Et pour qu'il y ait une explosion, il faut que cet isotope soit en très importante proportion, plus de 90%. Dans les centrales nucléaires, il est à 4%. Donc c'est physiquement impossible. Mais la réaction en chaîne, il faut être capable de la contrôler, parce que ça peut s'emballer, même si ça ne va pas jusqu'à l'explosion atomique, ça peut s'emballer, ça peut produire beaucoup de chaleur. Il faut être capable de la maîtriser. Donc c'est un des premiers, c'est le premier enjeu de la sûreté des centrales nucléaires, c'est ça. Et on sait la contrôler par divers moyens. Je ne dis pas le deuxième enjeu parce que c'est aussi capital, c'est refroidir le cœur du réacteur. Parce que, comme je vous l'ai dit, la fission réaction en chaîne produit une énorme quantité de chaleur. Si vous ne le refroidissez pas, ça fond. Donc, tous les réacteurs nucléaires doivent avoir un fluide de refroidissement. Dans la plupart du temps, c'est de l'eau, ça peut être du gaz, mais impérativement, le cœur du réacteur doit être refroidi. Et troisième enjeu de la sûreté, c'est confiner les produits radioactifs. Confiner, ça veut dire empêcher que des quantités excessives, parce qu'on peut admettre que certaines quantités de produits radioactifs soient déversées dans l'environnement. C'est ce qui est fait par toutes les centrales nucléaires du monde, j'y reviendrai. Mais il ne faut pas que des quantités excessives de radioactivité aillent vers l'extérieur. Si on revient sur l'accident japonais de Fukushima, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Bon, je ne vais pas faire l'historique de cet accident. Vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre d'une magnitude incroyable et suivi par un tsunami qui a tout dévasté. Bien. Et les centrales de Fukushima étaient en bord de mer. Elles ont pris le choc du tremblement de terre qui était à côté. Et le choc du tsunami avec une vague énorme qui a tout emporté, qui a mis à bas le système électrique du pays, etc. Bien, les centrales de Fukushima ont résisté au séisme. C'est-à-dire que quand il y a eu le tremblement de terre magnitude 9 ou au-delà, elles n'ont pas été détériorées et elles ont réagi comme prévu, c'est-à-dire qu'elles se sont arrêtées. Elles se sont arrêtées, la réaction en chaîne, si vous voulez, le moteur de la centrale, le cœur de la centrale, a stoppé toutes les centrales. Donc on peut dire, elles ont résisté au séisme. Mais le tsunami est arrivé quelques dizaines de minutes après, la vague. Et cette vague, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, d'abord, c'était une vague gigantesque. Et c'est vrai que les Japonais, les ingénieurs japonais avaient dimensionné la protection de la centrale, qui est en bord de mer, insuffisamment par rapport à la vague qui est arrivée. Ce qui fait que la vague, elle a surpassé les digues de protection et elle est venue s'engouffrer. Bon, et elle a tout emporté sur le site, sauf les bâtiments réacteurs. Mais quand je dis tout emporté, ça veut dire que elle a surtout bouché les canaux par lesquels les trois réacteurs puisaient de l'eau de mer destinée à refroidir, destinée à un circuit de refroidissement indispensable pour refroidir le cœur du réacteur. À partir de ce moment-là, l'enjeu de refroidissement du cœur n'a plus été respecté. Puisque ces prises d'eau, elles ont été bouchées par le tsunami, avec des débris, elles ont été complètement détériorées. Il n'y avait plus d'alimentation en source froide d'eau. Et les produits radioactifs, le confinement des produits radioactifs, cet autre enjeu de la sûreté, il n'a pas été respecté non plus, parce que suite à un développement de l'accident que je ne vais pas vous décrire, on pourra y revenir dans la discussion, mais suite à un enchaînement logique, tout à fait logique d'ailleurs, compte tenu de la situation accidentelle, les centrales, les réacteurs ont été amenés à relâcher de la radioactivité à l'extérieur. Il y a eu des explosions de vapeur, d'hydrogène, etc. La manière dont on protège les centrales, et là vous avez, ça illustre d'une autre manière ce que je viens de vous dire, la manière dont on les protège, c'est trois barrières superposées. Et ça, c'est dans pratiquement tous les types de réacteurs. La première barrière, c'est un tube métallique dans lequel on met l'uranium. C'est un tube étanche, solide, et ça garde l'uranium et les produits qui se forment ensuite dans l'uranium, à l'occasion des phénomènes de fission, ça les garde à l'intérieur. Si cette barrière est détériorée, la cuve du réacteur en acier pèse de 20 cm pour un certain réacteur, c'est une deuxième barrière qui est censée empêcher les fuites, qui est censée garder le confinement des produits. Et vous avez une troisième barrière qui est le bâtiment réacteur que vous avez vu, qui est l'enceinte en béton qui englobe tout cela. Voilà la manière dont on construit, dont on construit l'architecture de protection, je dirais, du cœur des réacteurs. Et donc vous avez vu que à Fukushima, étant donné que le cœur n'était pas suffisamment refroidi, les barreaux contenant l'uranium ont fondu sous la chaleur. Et à partir du moment où ils fondent, ils ne sont plus étanches et les produits radioactifs se déversent hors de ces gaines métalliques dans lesquelles ils étaient enfermés. Ils se sont déversés, ils sont allés dans la cuve. Et il est probable que les cuves elles-mêmes des réacteurs ont été fuitardes à certains endroits. Tout cela a entraîné à l'intérieur du réacteur beaucoup de vapeur, étant donné une chaleur accrue, et beaucoup de pression. Et ce qu'ont voulu faire les Japonais, c'était d'évacuer cette pression. Donc ils ont ouvert le valve, la pression qui avait dans la cuve, elle est allée dans l'enceinte du réacteur, mais du bâtiment réacteur. Et à l'intérieur de cette enceinte, la pression était très importante, et ils ont ouvert les vannes de cette dernière enceinte, de cette troisième barrière, pour évacuer la vapeur et la pression. Et ça aboutit non plus dans une enceinte de confinement, mais dans un hangar, et vous avez vu le hangar exploser au début de l'accident, il y a eu plusieurs explosions. Pourquoi ? Parce que dans le hangar s'était accumulé de la vapeur et de l'hydrogène, et que la pression était très importante, et que là, avec de l'hydrogène, de la vapeur, une petite étincelle, un petit mouvement comme ça, ça peut entraîner, et c'est ce que ça a entraîné, des explosions très importantes. Et ce que vous avez vu à la télé, c'est les hangars à l'intérieur desquels il y avait l'enceinte de confinement, explosé. Et cette vapeur venant de l'eau qui a baigné tout ça, elle était radioactive, forcément, puisqu'elle a été produite par de l'eau qui était au contact de produits radioactifs, puisque les cœurs n'étaient plus totalement étanches. Et donc cette vapeur qui s'est échappée contenait des produits radioactifs qui se sont baladés un petit peu, qui sont partis dans le Pacifique. Vous vous souvenez, quand on a parlé il y a 8 jours du nuage qui pourrait arriver en France, c'est arrivé en France d'ailleurs, hein, mais avec des quantités infimes de radioactivité. Mais sur place, la radioactivité a été sérieuse. Il y a eu des accidents graves dans le nucléaire. Il y en avait 3 jusqu'à présent. On peut ajouter un 4e, Fukushima. Et je dirais que l'accident de Three Mile Island aux États-Unis, ça a été à peu près le même qu'à Fukushima dans sa traduction au niveau du cœur du réacteur. Ça a même probablement été plus grave, puisque le cœur du réacteur a presque entièrement fondu, mais l'enceinte qu'il y avait autour était beaucoup plus solide que celle de Fukushima, et la radioactivité est restée à l'intérieur, et il n'y a eu que des relâchements insignifiants. Tchernobyl, ça a été complètement différent. Tchernobyl, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion, non pas nucléaire, mais une explosion de vapeur, qui a soulevé la petite structure de protection qu'il y avait au-dessus du cœur. Il n'y avait pas à Tchernobyl d'enceinte de confinement. Ce qui fait que le cœur du réacteur lui-même s'est retrouvé à l'air libre. C'est beaucoup plus grave qu'à Three Mile Island, beaucoup plus grave qu'à Fukushima. Là, à Tchernobyl, on avait le cœur d'un réacteur à l'air libre, et ce qui a fait l'accident, ce qui a déterminé les graves conséquences de l'accident de Tchernobyl, c'est que les produits radioactifs qui étaient à l'air libre ont été propulsés à l'extérieur par un incendie d'une violence extraordinaire que les Russes ont mis 10 jours à éteindre, l'incendie du graphite. Parce que dans le cœur du réacteur de Tchernobyl, il y avait un massif de graphite très important, servant justement à modérer la réaction en chaîne et à contrôler la réaction en chaîne. Ce qu'il n'y a pas dans les réacteurs occidentaux, hein. Il n'y a pas ce massif de graphite. Et c'est ce graphite qui a pris feu, et l'incendie a propulsé pratiquement tout l'inventaire radioactif du cœur du réacteur dans l'atmosphère à 3, 4, 5 km de hauteur. Ce qui vous explique que les produits radioactifs, hein, le nuage de Tchernobyl, a eu une très longue portée, contrairement à Fukushima, où on estime que les 2/3 de la radioactivité se sont redéposés sur le site ou à proximité du site. Tandis que Tchernobyl, montant à des altitudes stratosphériques ou presque, il a eu une portée beaucoup plus grande. Et ça, c'est l'échelle, vous avez sans doute entendu parler des accidents. Le niveau le plus élevé des accidents, c'est Tchernobyl. Et moi, je pense que quand les Japonais ont annoncé que Fukushima devait être classé à l'échelon 4, vous voyez, à l'échelon 4, bon, c'est pas en dessous de Three Mile Island, qu'il faisait une erreur totale. Et en réalité, maintenant, il va être classé au niveau 6, vous voyez, c'est-à-dire juste en dessous de Tchernobyl, mais au-dessus de Three Mile Island. C'est normal, Three Mile Island, il n'y avait eu aucun impact environnemental, tandis que à Fukushima, l'impact environnemental sera... Je ne sais pas quel objectif employer, parce qu'on n'a pas tellement d'informations, et les zones polluées par la radioactivité, on ne les a pas, et pour cause, on est trop proche de l'accident, on ne les a pas cartographiées encore, on pourra dire ça un peu plus tard. Ça, c'est une comparaison de Tchernobyl. Si on fait un bilan, tout de même, si vous faites le bilan de ce qui s'est passé depuis 50 ans qu'on fait des centrales nucléaires, en France, il y a eu zéro victime par les centrales nucléaires. Il y a eu des accidents, deux mineurs tués dans une mine d'uranium. Et dans nos mines d'uranium en France, dans les années 50-60, il y a eu des cancers du poumon développés par des mineurs d'uranium. Parce que les conditions n'étaient pas bonnes, on tâtonnait, c'était les premiers temps. Mais si on fait le bilan des réacteurs de technologie occidentale depuis 50 ans, on s'aperçoit que c'est un bilan infiniment meilleur sur le plan de la sûreté, sur le plan de la protection des individus et de la protection de l'environnement. C'est un bilan infiniment meilleur que les autres grandes sources d'électricité. Si vous prenez le charbon, par exemple, vous avez à peu près 10 000 morts par an dans les mines de charbon, par accident. Et on ne compte pas les problèmes de silicose. Et si vous ajoutez à ce bilan du charbon le gaz et le pétrole, vous arrivez à des morts par accident de l'ordre de 15 000 par an, régulièrement, depuis 50 ans ou plus. Rien de tel avec le nucléaire. Donc, vous voyez, le nucléaire, il a ce paradoxe d'être considéré comme l'énergie la plus dangereuse et de provoquer des angoisses, attendu que ce n'est pas du tout le cas sur le terrain. Mais enfin bon, c'est comme ça, les gens ont plus peur du nucléaire Peut-être parce que l'accident nucléaire est vu par les gens comme pouvant avoir une portée beaucoup plus grande que l'accident dans une mine de charbon, on n'est pas concerné, le gaz, qui pète, deux wagons de gaz qui explosent en Italie, en gare de Viareggio l'année dernière, ça fait 14 morts, mais bon, on n'est pas concerné par tout ça. Par contre, l'accident nucléaire, oui, ça impressionne, etc. Alors, bon, il y a des protections contre les agressions externes, je ne vais pas revenir là-dessus. Sur l'impact environnemental du nucléaire, il a un faible impact, mais on pourra peut-être en rediscuter tout à l'heure. Je vais passer là, et je vais vous dire un mot des déchets peut-être. Et je vous invite à me poser des questions et à m'interrompre. Je vois que vous êtes sympa, vous ne m'interrompez pas. Mais bon, si vous le souhaitez, vous pouvez me demander des précisions. Sur les déchets, bon, là vous voyez à peu près les proportions. Il y a à peu près 1 à 2 kilos de déchets nucléaires par an par habitant en France. Et alors, si les déchets nucléaires, je ne vais pas vous faire la nomenclature des déchets nucléaires, mais simplement vous parler des plus embêtants, quoi, des plus dangereux. Les plus dangereux, c'est ce qu'on appelle les déchets de haute activité, et certains sont à vie longue. Alors, quels sont leurs volumes ? Vous voyez, colonne de gauche, déchets HA, haute activité, vie longue. En dessous, c'est moyenne activité, vie longue. Ensuite, faible moyenne activité, vie courte. Bien. Si, la catégorie la plus ennuyeuse, c'est celle-là. Hein. C'est celle-là. Alors, leur volume, c'est ça. C'est la durée pendant laquelle ils sont très fortement radioactifs. C'est la durée qu'il faut pour que ce qu'on appelle les produits de fission, une certaine catégorie de déchets, perdent de leur virulence radioactive, hein, si je puis dire. Donc vous voyez, il y a quand même des étapes dans la décroissance de la radioactivité de ces déchets, et dire que dans 200 000 ans, ces déchets sont dangereux, c'est faux. C'est tout simplement faux. Parce qu'au bout de quelques milliers d'années, ils rejoignent la radioactivité qu'on trouve un peu partout, dans les gisements d'uranium, etc. Bien, voilà ce qu'on peut dire sur le plan de la durée de la radioactivité, et sur le plan de leurs caractéristiques, c'est ça. Un déchet de haute activité vie longue, c'est en France, hein, avec la technique qu'on utilise, c'est un bloc rocheux. Un bloc rocheux parce que on a vitrifié, on a incorporé à du verre en fusion les atomes radioactifs. Et ce verre en fusion s'est solidifié, et ce verre en fusion est en quelque sorte la matrice de ces atomes radioactifs. Il les piège, il les retient à l'intérieur. C'est la protection qu'ont mis au point les chercheurs français, et c'est un procédé qui a essaimé un petit peu au niveau mondial. Ces déchets blocs vitrifiés, on les met dans des conteneurs en acier, et l'idée, c'est de les mettre dans des stockages profonds, à 500 mètres de profondeur, dans des couches géologiques qui sont stables depuis des millions d'années. Et où l'idée, si vous voulez, c'est que, étant donné que la radioactivité décroît avec le temps, que les protections mises autour de ces déchets durent suffisamment longtemps, durent jusqu'à ce que la radioactivité de ces déchets soit revenue à des niveaux négligeables. Ça, c'est la philosophie du confinement des déchets. Ce dont on est sûr, c'est que ces conteneurs en acier mis à 500 mètres de profondeur, ils vont finir par s'éroder, par s'altérer. Tout l'enjeu, c'est que les atomes radioactifs qui sont à l'intérieur ne créent pas de soucis dans l'environnement au-dessus du stockage. Les ingénieurs en France, en Suède, aux États-Unis, en Suisse, c'est là que les recherches sont les plus avancées sur ces déchets, pensent que, ben ils pensent cela, j'ai essayé de le mettre là, alors ça se lit de bas en haut, hein. Il va y avoir une dégradation très lente des structures de confinement des déchets. On ne peut pas garantir que ça va rester immuable ad vitam aeternam. Hein. Et pendant ce temps, décroissante la radioactivité. En deux, vous voyez, les déchets, la radioactivité va, c'est l'hypothèse qu'on fait, sortir de ces conteneurs en assise, échapper à la matrice vitreuse parce que léchée par de l'eau, il y aura forcément des circulations d'eau, même si elles sont faibles, c'est l'eau qui va lécher les blocs vitrifiés et se charger des atomes radioactifs qui forment les déchets. Et cette eau, on fait l'hypothèse qu'elle va migrer à travers la roche et qu'elle va aller vers la surface. Et là, les vitesses de circulation sont celles-là, c'est quelques centimètres par millier d'années, vous voyez. Et en plus, vous avez certains éléments des déchets, certains radioéléments qui ne sont pas solubles dans l'eau, qui ne vont pas se déplacer, qui vont rester sur place. Mais d'autres, qui sont plus légers, qui vont être entraînés par l'eau, ça va mettre des milliers d'années. Et pendant ce temps, la radioactivité décroît. C'est-à-dire que les atomes radioactifs ne deviennent plus radioactifs, mais se transforment en atomes stables. Enfin, troisième étape, on fait l'hypothèse que des quantités de radioéléments, d'atomes radioactifs, vont arriver en surface. Mais, on estime, selon le scénario le plus pénalisant, l'impact sera extrêmement faible. Les boissons que vous buvez dans certaines marques de minéral contiennent plus de radioactivité que 0,25 que des 0,25 émissiers d'air qui sont indiqués ici. Enfin, toujours est-il, ça, c'est le schéma français et c'est un schéma qui a été acté dans une loi et en principe, le centre de stockage pour ces déchets haute activité bilan doit être décidé en 2015 et ouvrir en 2025. Et bon, je répète ce que je disais tout à l'heure. Si vous discutez avec des ingénieurs nucléaires en France ou ailleurs, ils vous diront que les problèmes de sûreté, c'est les réacteurs, c'est les usines du cycle du combustible, mais ils pensent que les déchets ne porteront pas au général, ne sont pas une menace, hein, comme on l'entend dire parfois, pour les générations futures. On pourra en rediscuter volontiers ensuite. Je ne parle pas de nucléaire et non-prolifération. On pourra en discuter aussi, sinon ça nous amènerait loin. Là, bon, les avantages du programme nucléaire français, c'est vrai que l'avantage essentiel, c'est que nous, on n'a pas de combustible fossile. On n'a pas de charbon, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Et le fait d'avoir de l'uranium... Areva, l'entreprise française, est le premier producteur mondial d'uranium. On ne le produit pas chez nous, on a acheté des gisements, des parts de gisements à l'étranger dans plusieurs pays. Donc on a une maîtrise sur la ressource uranium et ça nous donne l'indépendance. Et c'est vrai que avec le nucléaire qui coûte moins cher, qui est compétitif, les Français payent leur électricité moins cher, à peu près 30% moins cher que la moyenne européenne. Si vous allez en Italie, vous paierez l'électricité le double. En Allemagne, presque le double. En France, En France, c'est moins cher. Même si l'électricité va probablement augmenter dans les mois qui viennent, mais enfin, l'avantage compétitif restera. Alors oui, on exporte aussi pas mal de matériel nucléaire, mais là, je vais passer. Et il y a des emplois, il y a à peu près 100 000 emplois dans le secteur nucléaire français. Et là, je vais vous dire un mot pour conclure du futur. Qu'est-ce qu'on peut penser du futur ? Actuellement, on est en génération 2, c'est-à-dire tous les réacteurs qui fonctionnent dans le monde sont de la génération 2. C'est-à-dire qu'il y a, par rapport à la génération 1, des évolutions techniques non négligeables. Génération 3, c'est les réacteurs qu'on va mettre en service, qu'on a conçus dans les années 90-2000, début 2000, et qu'on va mettre en service. Et l'EPR, vous avez peut-être entendu parler de l'EPR, c'est la génération 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture technologique par rapport à génération 2, mais il y a des améliorations à tous les niveaux. Niveau rendement, niveau sûreté, maîtrise dans le fonctionnement. Donc tout ça, mais ça reste dans la lignée des réacteurs actuellement en service. La véritable rupture, ça va être là, génération 4. Parce que là, il y a depuis plusieurs années une coopération internationale pour mettre au point ces réacteurs. Ces réacteurs, ça c'est génération 3, c'est l'EPR. Bon, on pourra revenir sur l'EPR si vous voulez, mais je passe à génération 4. Il y a 10 pays qui coopèrent, maintenant il y en a un peu plus. Les 10 pays, c'est des pays qui sont en pointe dans le nucléaire, dont la France. Ils se sont dit, on va se partager le travail, on va étudier 6 modèles de réacteurs. Et on pense qu'ils pourraient déboucher ces modèles vers cet horizon 2035-2040. Les caractéristiques, là il y aurait une véritable rupture par rapport aux générations 2 et génération 3. Parce que ces réacteurs doivent éliminer le risque d'accident grave, plus exactement sans éliminer la possibilité d'un accident grave, parce que ça peut toujours se produire, c'est faire que les conséquences de cet accident restent sur le site même du réacteur et n'aillent pas polluer l'environnement au-delà, pas faire comme Tchernobyl ou Fukushima. Éliminer la plus grande partie des déchets. Oui, on met au point, et ça va marcher, on met au point des systèmes qui, dans le processus même de fabrication de l'électricité, permettront l'élimination des déchets. Et on met également au point, mais ça, parallèlement à ce qui peut se passer dans les réacteurs, on met également au point des techniques hors réacteur ou dans certains réacteurs d'un certain type d'élimination des déchets radioactifs qui ont la vie la plus longue. Utiliser tout le potentiel de l'uranium, alors là c'est extrêmement important. C'est important dans un monde comme je vous l'ai dit au début, où les ressources énergétiques sont en voie de raréfaction, avec les réacteurs de génération 4, réacteurs qu'on dit à neutrons rapides, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'uranium actuellement, qui est susceptible de subir le phénomène de fission et donc de dégager de beaucoup d'énergie, cet uranium n'est présent dans l'uranium global, cette forme d'uranium, qu'à 0,7%. Donc on n'utilise que 0,7% en réalité dans nos réacteurs actuels de l'uranium.
Les réacteurs de génération 4, de par leur configuration et les phénomènes physiques qui sont à l'œuvre, ces réacteurs-là, ils ne vont pas utiliser 0,7% d'uranium, mais 100% d'uranium. Tout simplement parce que l'uranium non fissile, eh bien, dans ces réacteurs-là de génération 4 à neutrons rapides, l'uranium non fissile va se transformer en uranium fissile. Donc, c'est plus 0,7%, c'est 100% qui va être utilisé. Ce qui fait qu'on a des réserves, avec les réserves d'uranium actuellement identifiées, on en a pour à peu près deux siècles et demi d'utilisation au même rythme de production actuelle avec les réacteurs existants aujourd'hui. Et avec ces nouveaux réacteurs, c'est plus deux siècles et demi, ça se compte en millénaires, hein, ça se compte en 5-6 000 ans. Donc, il est intéressant, je ne dis pas que c'est ça qui va se construire, pas forcément, mais il est intéressant d'avoir en réserve et de garder sous le coude, si j'ose dire, cette possibilité de savoir qu'on aura de toute façon une ressource énergétique fantastique. Si on n'arrive pas avec les combustibles fossiles qui sont plutôt chancelants, avec les renouvelables, si on doit boucler des bilans énergétiques, on a cette possibilité-là. Et il y a une autre possibilité, c'est là-dessus que je finirai, une autre possibilité nucléaire, c'est la fusion. Alors la fusion, c'est encore tout à fait autre chose. Là, dans la fission, c'est des gros atomes très lourds qui se coupent en deux et qui dégagent de l'énergie, comme je vous l'ai dit. La fusion, c'est le contraire, c'est des atomes très légers d'hydrogène qui s'agglomèrent, qui fusionnent. Et ça dégage 10 fois plus d'énergie que les phénomènes de fission. La fusion, c'est très intéressant parce que ça se fait avec de l'hydrogène, et l'hydrogène, ça se fait avec l'eau de mer, si vous voulez, et c'est une ressource totalement abondante et infinie. Donc c'est très intéressant, mais c'est extraordinairement compliqué, parce que pour faire fusionner des atomes légers, il faut porter le milieu à des températures extrêmes, 100 millions de degrés, plus que ce qu'il y a dans le Soleil. Et vous doutez bien que le plasma à 100 millions de degrés ne peut pas être en contact avec un matériau quelconque. Sinon, le matériau, il fond, se pulvérise. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire chauffer ce plasma, de le maintenir à cette température extrême et de faire en sorte qu'il ne touche pas les parois de la machine à l'intérieur duquel tout ça va se faire. Donc c'est avec des aimants, etc. C'est un défi technologique extraordinaire. Il y a la moitié de l'humanité qui collabore à ce projet, puisque les pays qui collaborent à la machine qu'on appelle ITER, qui est construite pas loin d'ici à Cadarache, représentent un peu plus de la moitié de l'humanité. Et on espère, que ça pourrait éventuellement déboucher, on ne sait pas trop quand, mais, et on ne sait même pas, il y a des scientifiques qui doutent que ça marche un jour, parce que c'est trop compliqué. Mais l'enjeu en vaut la chandelle, je dirais, parce qu'à ce moment-là, on aurait de l'énergie, de l'énergie vraiment à portée de la main pendant toute la durée de vie de l'humanité sur la Terre. Voilà ce que je voulais vous dire, terminer là, sur cette note-là. Merci de votre attention, et maintenant, je serai très intéressé par vos réflexions, vos commentaires, vos critiques et vos questions, si vous en avez. Oui, mademoiselle.
Les recherches pour ces réacteurs.